Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération. Hey, I'm a chick.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans YEG Radio, l'émission féminine nouvelle génération. C'est une émission très particulière et très spéciale que l'on vous propose cette semaine puisque c'est notre dernière émission de la saison. Déjà un an que l'on partage l'antenne de Radio Campus Rennes avec vous pour parler de l'actualité rennaise au féminin, celle que vous retrouvez au quotidien, je le rappelle, sur yegmag.fr et au travers des numéros mensuels diffusés sur notre site. Alors au passage, j'en profite pour rappeler que vous pouvez découvrir et lire le numéro 26 en ligne actuellement avec un dossier consacré aux lesbiennes à Rennes et en particulier à celles qui fréquentent les associations militantes LGBT. Alors je vous le disais, c'est une émission spéciale et particulière, en effet pas d'invités cette semaine, mais des femmes quand même, cette semaine au micro d'YEG Radio. Elles ont participé tout au long de l'année au mensuel et à l'actualité publiée sur le site yegmag.fr. Il s'agit bien évidemment des journalistes de l'équipe, ainsi que de la graphiste maquettiste. Et un clin d'œil à l'homme de l'équipe quand même, Célian Ramis, photographe du magazine, qui est également avec nous, derrière son appareil photo naturellement. Alors avec moi il y a Marie Lelevier, bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Il y a aussi Morgane sous la rue. Bonjour Morgane.
Bonjour Marine.
Justine Gourlet aussi. Bonjour Justine.
Bonjour Marine.
Laura Lamassoure est également présente.
Bonjour
Laura. Et enfin Sophie Barrel. Bonjour Sophie.
Bonjour Marine.
Ça en fait des femmes quand même autour de cette table. En tout cas, c'est très important pour nous cette émission. Alors on n'oublie pas les bonnes manières et on vous détaille tout de suite le sommaire. Cette semaine, on revient sur les événements et actualités qui ont marqué l'actualité féminine, que l'on a bien évidemment relayé dans YEG. Et surtout, on revient sur ce qui nous a marqué les unes et les autres. On parlera donc des associations féministes rennaises, de la libération de Barbie ouvrière, d'érotisme avec une sexologue rennaise, d'un drôle de magic meeting, d'un grinçant ABCD de l'égalité et enfin des femmes lesbiennes vues par l'œil de notre graphiste. Un beau programme quand même, et qui n'est qu'une petite partie de l'iceberg puisque tout le reste est à découvrir sur yegmag.fr. Alors faites-vous plaisir, lisez, relisez tous les numéros d'YEG, je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps. Allez, c'est parti, on attaque, on commence dès maintenant. On aurait pu parler pendant des heures des centaines de sujets que l'on a traités dans YEG et des centaines de femmes que l'on a rencontrées cette année, mais il fallait faire un choix, un seul, alors je triche. Je triche parce que j'ai pas choisi un sujet en particulier, mais quelque chose qui m'a marqué cette année, les différents mouvements et actions entreprises par les associations féministes rennaises. On a pu prendre le temps de les rencontrer, de les découvrir et de comprendre l'intérêt et l'importance de leurs actions et de leur existence, car c'est un univers légèrement différent de celui qui est portée au niveau national, avec Oser le féminisme, Ni pute ni soumise. On entend, on voit régulièrement Najat Vallaud-Belkacem, on parle beaucoup des fémènes, etc. Alors en local, la situation est différente. Leur rôle n'est pas de réagir à l'actualité nationale et aux différentes lois proposées, je pense notamment à la loi de pénalisation des clients de la prostitution, ni même de s'insurger à chaque acte ou propos sexistes. Les associations féministes rennaises, telles que Question d'égalité, Mixité, Histoire du féminisme Rennes ou encore le récent Mouvement HF Bretagne, travaillent sur la diffusion des connaissances féministes de l'histoire des femmes et agissent sur la prise de conscience à travers des conférences, des actions contre les jouets sexistes à la période hivernale, des publications telles que le journal de la visite guidée du Rennes au féminin ou le livre Les femmes s'en vont en lutte, écrit par Lydie Poré ou Patricia Godard, on le rappelle, mais aussi donc des réalisations de diagnostics visant à alerter sur les disparités entre les femmes et les hommes. Bref, on ne va pas lister tout ce qu'elles font, enfin tout ce qu'elles ont fait, font et feront très prochainement, mais tout cela nous rappelle qu'il existe un féminisme à Rennes, un féminisme certes discret mais intelligent, qui n'agit pas simplement pour agir, qui n'est pas moralisateur non plus, mais qui est un outil de connaissance, de diffusion surtout des connaissances, pour une prise de conscience individuelle que chacun digère et intègre à sa manière. Et puis les marches féministes non mixtes, la campagne d'affichage du collectif La Brique sur les noms de rue au féminin, ont alimenté et complété ce féminisme rennais avec une approche plus alternative et ponctuelle. En tout cas, si on craint le recul des droits des femmes, on se rassure à Rennes sur la vie et l'existence de structures convaincues et convaincantes. Et pour moi, c'est un énorme coup de cœur envers ces associations et leurs actions. Et bien évidemment, YEG continuera de suivre l'actualité féministe de la capitale bretonne. Soyez-en certains, on vous dira tout avec toujours notre rôle d'analyse et de recul, qui est bien évidemment propre à notre mensuel féminin rennais. On continue de parler de l'actualité féminine rennaise marquante de cette année, juste après Divine Hammer des Breeders. Divine Hammer, une chanson que l'on aime beaucoup, des Breeders. L'événement marquant de Laura concerne les Barbie, mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont en bleu de travail, ligotées avec des chaînes et bâillonnées. Laura, pour ou contre la libération de Barbie ouvrière, on ne sait pas, mais c'est ton sujet marquant de l'année.
Et oui, le 12 décembre dernier, l'association Peuple Solidaire, en collaboration avec l'ONG China Labour Watch, a organisé dans toute la France une série de happenings. Donc, ça s'est déroulé au Colombier pour nous, mais ça a fait suite à une série d'enquêtes en Chine, même dans les usines de fabrication de la multinationale américaine Mattel, donc qui fabrique principalement la fameuse Barbie depuis maintenant 50 ans, je pense. Et donc, du coup, happening qui m'a plu parce que happening assez humoristique, contrairement à ce que peut faire des associations comme PETA ou Greenpeace, pour ne citer qu'elles, qui sont plus dans l'action, pas forcément violente, mais assez si, visuellement, c'est toujours assez impressionnant. Et là, on avait une espèce de grande boîte rose avec une Barbie enchaînée à l'intérieur et une bonimenteuse qui nous faisait en fait la publicité de cette Barbie, avec des phrases d'accroche assez quand même assez marquantes, comme par exemple une Barbie facilement manipulable et exploitable à souhait. Donc cette Barbie, elle représente qui ? Elle représente les ouvrières et ouvriers, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des ouvrières, mais principalement des femmes qui travaillent dans ces manufactures en Chine pendant parfois 13 heures à suivre. Donc c'était vraiment l'intérêt pour eux de sensibiliser les gens et non pas, comme le disait Fanny Gallois, qui est spécialiste de la dignité au travail et que j'ai rencontré là-bas et qui est responsable aussi des campagnes de Peuple Solidaire. Elle expliquait que c'était pas empêcher les gens d'acheter la Barbie, c'est pas le problème, mais c'est vraiment de sensibiliser les gens aux conditions de travail de ces femmes qui sont extrêmement difficiles. Donc qui n'ont pas de sécurité sociale, qui ne connaissent pas tout ça, qui ne sont pas informées non plus par les personnes, qui vivent dans des dortoirs dignes de camps de concentration, empilés les unes sur les autres. Et ce qui était aussi était touchant pour moi, c'est que j'ai pu rencontrer donc Monsieur Zhang, donc c'est pas son vrai nom, mais c'est un ancien ouvrier chinois qui a fait du droit et qui est devenu enquêteur et qui a décidé de s'infiltrer tout simplement dans les usines en Chine. Et qui a fait le voyage en France pendant tout ce happening, qui a fait la tournée avec les ONG, et qui a pris ce risque-là. Donc moi, quand je l'ai vu, il était très très stressé parce qu'il s'est fait un peu jeter. Enfin, tout le monde s'est un peu jeté sur lui, les médias, donc très grande visibilité. Il voulait pas être filmé parce que justement, en rentrant chez lui, il avait beaucoup de risques pour sa personne, donc que ce soit la prison ou même pire. Donc du coup, très très bon, très très bonne forme en fait pour moi de happening, très marquante, et ce justement avant les fêtes de Noël.
Oui, forcément, la période forcément. Un petit peu rêvée pour sensibiliser les gens aux achats de jouets. Alors on reste dans l'esprit de Libération, il s'agit de Libération sexuelle maintenant, puisqu'un vent érotique souffle sur YEG Radio. Et toi Marie, donc, ce qui t'a le plus marqué cette année, c'est l'érotisme, le sujet du dossier du mois de février.
Exactement Marine, un sujet vaste et très intéressant qui a été réalisé au moment où le salon en fait, de l'érotisme se tenait au Parc Expo de Rennes, un endroit surprenant que tu as d'ailleurs visité pour nous.
Je m'en rappelle, tout le monde s'en rappelle.
Un travail qui a été vraiment de définir ce qu'est l'érotisme aujourd'hui, son évolution, ce que ça génère d'un point de vue matériel sur le commerce du sexe et d'un point de vue moral sur les femmes. Pour cela, nous avons donc rencontré, toi et moi, de nombreuses personnes, de vendeurs de sextoys, des consommatrices, des responsables du salon et puis une sexologue, Marie Boucherie-Carlier. C'est cette dernière rencontre qui m'a le plus marquée. Cette spécialiste nous a permis en fait, de prendre du recul par rapport à tous les témoignages recueillis auparavant, de faire tomber les idées reçues et de savoir quelle place tenait l'érotisme dans la vie d'une femme et également comment elle pensait l'érotisme, chose qui n'était pas d'entrée évidente. Alors il faut noter, comme le décrit d'ailleurs très bien le dossier que je vous invite à aller consulter, voilà c'était donc le dossier du mois de février, je le répète, que le culte du corps, le culte de l'apparence sont bien omniprésents dans notre société actuelle. Les magasins type sex shop se multiplient, créant un lien étroit entre sexualité et business. Du coup, les femmes appréhendent l'érotisme comme quelque chose de préconçu et ça c'est inquiétant. Les femmes ne se en fait, sentent pas si libres et si libérées que leurs aînés, selon la sexologue, et ça m'a surpris. Les femmes sont victimes d'une pression sociale manipulée par le cinéma, la télévision, les magazines qui leur envoient une image en fait erronée de la femme parfaite qui doit être hyper sexualisée, au top en fait, pour être épanouie sexuellement. Conséquence, eh bien, les femmes se créent des complexes, se comparent et se renferment sur l'image qu'elles reflètent. Leur sexualité pour certaines devient ainsi mécanique, dénuée de légèreté. Alors que pourtant requiert l'érotisme de la légèreté pour pouvoir jouer et donner envie à l'autre de jouer. Ça, c'est les propos de la psychologue. Bref, tout le contraire en fait, de ce que la société nous fait croire. Les femmes ne sont finalement pas si émancipées que ça. Et moi, ça m'a marqué, voilà, ce dossier et cette réflexion. La solution, en tout cas, il y en avait une, selon la psychologue. Être heureuse, ouverte, écouter son corps et ses émotions, être dans le jeu J-E et le jeu J-E-U. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Marine, mais on l'avait souvent répété quand Marie-Claire Boucherie-Carlier était venue. Et ne plus se poser de questions inutiles, un dossier rassurant et qui nous donne envie de nous libérer de toute pression sociale, de faire vaudeler l'idée de perfection et de croquer la vie ou le fruit défendu à pleines dents.
Très bien, merci beaucoup. En tout cas, la solution, être heureuse, c'est simple, efficace.
Exactement.
On y arrive toutes très bien. Merci beaucoup en tout cas à Laura et à Marie pour leur événement marquant de cette année. Alors après une chanson des Breeders, on retrouve Kim Deal au sein des Pixies, aux côtés de Frank Black, avec Dig for Fire. Bonne écoute sur YEG Radio.
Barracks assault woman, overweight for the rest of his years. He resides on a beach in the town where I am going to live. And I often ask him, are you looking for the mother lode? No!
For Fire des Pixies, un groupe emblématique de la scène rock des années 90. Alors c'est avec toi, Justine, que l'on reprend le cours de ce Best of YEG, si j'ose dire. C'est ton premier reportage pour YEG, toi qui t'as marqué. Il s'agit du Magic Meeting. Je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit.
Alors le Magic Meeting, c'était donc organisé par le Festival des Coxigrues les 22 et 23 mars dernier. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, ça consistait à suivre un parcours dans les rues du centre-ville de Rennes avec un casque sur les oreilles. Donc en gros, deux comédiens nous guidaient, donc les comédiens Colombe Andréi et Yannick Delafontaine. Et les casques diffusaient de la musique, donc divers groupes de rock ou voilà, un peu de salsa, un petit peu de tout. Et entre chaque morceau, on avait la voix du comédien qui nous racontait une histoire, une anecdote sur, par exemple, la place Sainte-Anne. Et en même temps, il ajoutait un petit truc un petit peu loufoque. Donc, il nous demandait de mimer, par exemple, certaines choses. Alors, c'était assez drôle parce que, du coup, les passants, eux, nous voyaient en train de danser ou de sauter dans tous les sens dans la rue, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait puisqu'ils n'entendaient rien du tout. Donc, c'était assez drôle. Par exemple, on devait faire du air guitar sur du Jimi Hendrix. C'était très sympa, rue Lafayette. Sinon, on est arrivé place du Parlement, on a dû faire des statues immobiles. C'était très drôle aussi. Et alors, le but, c'était vraiment de nous emmener dans notre bulle et vraiment de se couper du monde. Et c'était tout à fait réussi. Les gens étaient ravis. Ils sont arrivés avec leurs enfants. Beaucoup de familles sont venues ce week-end-là. Et ils ont vraiment apprécié. Donc, les retours étaient très positifs. Et Colombe et Yannick étaient ravis de leur prestation puisqu'ils ont réussi à relever le défi de faire en sorte que les gens s'évadent et un peu évoluent dans une autre sphère dans la rue malgré tout.
Bah oui, donc c'était très sympa. Ça avait l'air sympa et ça a été forcément un franc succès. Merci beaucoup, Justine. Chez YEG, on a des coups de cœur et aussi des coups de gueule. On rigole gentiment en attribuant à Morgane la fonction de maîtresse des coups de gueule. Je vous rassure quand même, elle a aussi pas mal de coups de cœur, mais je l'ai forcée à en choisir qu'un seul sujet. Alors aujourd'hui, elle va gueuler, ça va ruer dans les brancards, je peux vous le dire. Apparemment, selon ce qui se dit. L'ABCD de l'égalité, c'est pas pour maintenant, mais la gueulante, c'est pour tout de suite, Morgane.
Oui, ma chère Marine, j'ai choisi de vous parler de l'ABCD de l'égalité, un sujet qui a fait du bruit en début d'année et auquel YEG est particulièrement attaché. D'ailleurs, on y a consacré un décryptage en mars dernier, non sans mal, puisque à l'époque, l'inspection académique avait refusé de nous répondre, comme quoi le sujet est sensible. Alors, pour rappel, l'ABCD de l'égalité, ce sont des dispositifs pédagogiques destinés aux enseignants pour les aider à parler d'égalité entre filles et garçons avec leurs élèves. Le but étant de lutter contre les stéréotypes sexistes que notre société véhicule. Alors cela signifie par exemple de ne pas juger ou pire d'écarter une petite fille parce qu'elle aime le foot ou parce qu'elle voudrait devenir routier ou chef de chantier. Et de la même façon, un garçon qui voudrait avoir les cheveux longs, porter des pantalons roses et devenir esthéticienne. L'ABCD de l'égalité était testée dans 275 écoles primaires partout en France, par arène, depuis la rentrée 2013. Mais en janvier dernier, des esprits tordus et mal intentionnés ont imaginé de vilaines rumeurs et envoyé des SMS aux parents d'élèves déclarant que cet ABCD de l'égalité n'était ni plus ni moins qu'une théorie du genre qui allait faire attention de nos chérubins, des homosexuels addicts à la masturbation.
Forcément.
Une pratique, la masturbation, qui leur serait même enseignée en classe. Ces mêmes esprits haineux issus de l'extrême droite la plus agressive et la plus dangereuse de notre pays lançaient alors l'opération Journée Retrait de l'école. Alors le plus troublant dans cette affaire, ce sont ses parents qui ont vraiment cru que les enseignants allaient apprendre à leurs rejetons à se masturber et qui ont retiré leurs enfants des écoles. Quoi qu'il en soit, l'ABCD de l'égalité devait être généralisé à la rentrée prochaine dans toutes les écoles et donc à Rennes aussi. Et l'on se réjouissait de cela à Rennes chez YEG, surtout. Oui, on se réjouissait de cela chez YEG parce que l'ABCD de l'égalité, c'était la promesse de voir notre société devenir plus juste, plus équilibrée. À l'heure où sexisme et homophobie s'affichent ouvertement et fièrement, ce sont donc plus que jamais plus que jamais à combattre ardemment, comme on le fait chez YEG, et la BCD de l'égalité aurait dû nous aider à cela. Mais voilà, nouveau coup de théâtre vendredi dernier, la BCD de l'égalité est mort, enterré dans la plus grande discrétion et la plus stricte intimité par le nouveau et inexpérimenté ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon. Monsieur Hamon a cédé face aux groupuscules extrémistes, aux fachos, aux inquisiteurs, face à ceux qui veulent voir la femme à la cuisine et les homos au cachot. Il n'a même pas essayé de mener bataille. Il aurait pu prendre exemple sur sa collègue Christiane Taubira, vaillante et admirable ministre de la Justice, qui a tenu bon, elle, face aux provocateurs intégristes de la Manif pour tous. Il a préféré le modèle François Hollande, à croire que dans ce gouvernement, seules les femmes ont du courage, des couilles, quoi.
Et oui, forcément, et on n'a pas fini de gueuler sur le sujet, je pense. En tout cas, merci beaucoup Morgane, j'espère que ça va mieux après ce coup de gueule, hein. il faut se libérer.
Oui, ça y est, ça va beaucoup mieux.
Dans un instant, Sophie, tu nous parles de la conception graphique du focus sur les lesbiennes à Rennes. Mais avant, on vous laisse apprécier la talentueuse Jenny Lewis, chanteuse du groupe Rilo Kiley, que l'on aime beaucoup chez YEG.
Yeah.
Execution of All Things, mon anglais ne s'est pas amélioré cette année, de Rilo Kiley, hein, on l'avoue, on aime beaucoup l'énergie communicative de Jenny Lewis. Alors, The Last, mais pas The List, sujet abordé dans cette émission, c'est Sophie qui nous en parle, parce qu'après tout, vous appréciez tous les mois le graphisme de la maquette et de chaque focus, hein, conçu spécialement selon le thème traité. Mais les idées, la conception, ça vient bien de quelque part, alors c'est à toi Sophie.
Alors en fait, moi j'ai choisi le sujet sur les lesbiennes, plutôt que de partir sur le dossier de juin, et plutôt que de partir sur un graphisme un peu classique, on va dire, avec des silhouettes féminines par exemple, qui sont très stéréotypées alors qu'on est supposé tous identifier à ces silhouettes-là, j'ai préféré chercher l'inspiration à travers l'histoire de l'art. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé illustrer ce dossier. Parce que, mine de rien, ce sont des représentations qui nous restent et qui influencent l'imaginaire collectif et nos représentations sociales. Mmh. Et du coup, je trouvais ça plus intéressant à traiter. J'ai pu faire des allusions, en fait, à plein de choses que j'ai pu trouver. Par exemple, j'ai travaillé sur une représentation de Saint Sébastien, qui serait le patron, en fait, le saint des homosexuels. J'ai pas trouvé d'ailleurs celle des lesbiennes. Mais j'ai fait une allusion à ce personnage-là, parce que je trouve qu'il est très représentatif au final du combat de l'homosexualité, parce que c'est un saint qui est représenté avec le corps criblé de flèches. Mmh. Et mine de rien, depuis le temps que cette représentation existe, c'est intéressant de voir que même aujourd'hui encore, ce sont des personnes qui subissent encore et toujours des attaques. Et c'est bien dommage.
Bah oui.
Du coup, j'avais mis dans ce focus-là plein de petites flèches un peu partout qui symbolisaient aussi le chemin parcouru et qui est encore à parcourir et les attaques que les lesbiennes se prennent toujours et encore, malheureusement. J'ai aussi fait des petites allusions à l'amour, mine de rien, avec un petit cupidon dans un coin qui utilise aussi des flèches d'ailleurs, mais qui montre que on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Donc en fait, tous les éléments que j'ai mis dans ce focus avaient un sens. Il y avait un sens graphique, certes, mais aussi un sens peut-être plus profond.
Oui, symbolique.
Et plus symbolique. Et justement, je trouvais que ça rendait le graphisme beaucoup plus riche. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai notamment mis aussi un tableau, celui qui n'a rien à voir en fait avec les lesbiennes d'ailleurs, le portrait présumé de Gabrielle d'Estrées et de sa sœur la duchesse de Villars. Bon, ça fait très pompeux dit comme ça, mais voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les lesbiennes, c'est le fameux tableau où on voit une femme pincer le téton d'une autre femme, mais il représente quand même beaucoup les lesbiennes en général dans le graphisme, dans l'imaginaire collectif, et je trouve qu'il représente d'ailleurs très bien cette sexualité féminine qui est d'ailleurs mal représentée, en fait, et qui est souvent réalisée par des hommes et non pas par des femmes.
Ça, c'est vrai.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pourtant, ce tableau, ça fait un moment qu'il existe. Et en fait, si on est attentif aux images et aux éléments en fait, que j'ai utilisés pour ce focus, on peut se rendre compte qu'il y a un double sens un peu partout. Et du coup, il faut juste être attentif et regarder l'image plutôt que de la voir.
Très bien. Donc, tu invites lectrices et lecteurs à un petit peu jouer avec le symbolisme de chaque dossier, on va dire. Et puis, bien évidemment, on fait référence aussi à la page quand même dans le frigo 2 où Sophie nous fait une maquette spéciale tous les mois et généralement, il glisse un petit jeu de mots. Alors, à vous d'aller vous amuser avec ça.
C'est vrai.
Yeg Radio, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit en début d'émission, c'est la dernière émission de la saison. D'où ce best Stuff Yeg, et j'en profite pour faire un clin d'œil à Mathilde Julland, ses culottes et ses vulves graphiques, à Mathilde Joubeau, co-réalisatrice du court-métrage Désiré sur le droit à l'avortement, à Rachel Jouvet, comédienne qui avait témoigné des violences vécues au sein de son couple, à Anna Lerin, styliste qui a conçu les costumes des créatures abyssales de Wittich, bref, à toutes celles qui ont figuré dans les pages du mensuel cette année et sur notre site yegmag.fr. Et d'ailleurs, pour Yeg, ce n'est pas encore les vacances, on continue de vous parler de l'actualité rennaise au féminin jusqu'au 7 juillet, date à retenir et à noter dans vos agendas, puisque ce sera le jour de la sortie du numéro 27 de Yeg. Petit teaser pour faire plaisir, le harcèlement sexuel n'épargne pas Rennes. Pour conclure, je remercie toute l'équipe de Yeg Radio, Claude qui réalise cette émission, et Radio Campus Rennes pour son accueil cette année. Je remercie également toute l'équipe de Yeg, Marie Lelevier, Morgane Soularue, Justine Gourlet, Sophie Barrel, Laura Lamassour et Célian Ramis. Et on pense aussi à Chloé Rébillard, bien sûr, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup les filles.
Merci Marie.
Merci.
Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. À tout de suite, votre émission sur écoute. On se retrouve dans Yeg Radio à la rentrée. Bonnes vacances et bel été. Musique.